maison des écrivains. Une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour et bienvenue dans le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, on parle d'art, de littérature évidemment, mais aussi d'art, de grand art, avec deux écrivains. Je n'ose pas dire, c'est pourtant d'actualité écrivaine, d'ailleurs on va le leur demander, qui à travers leurs deux derniers livres se frottent aux arts plastiques, se frottent à deux artistes au masculin qui eux-mêmes se sont frottés à la représentation du féminin. La première, c'est Camille Laurence qui, dans La petite danseuse de 14 ans, qui paraît chez Stock, s'intéresse à Degas et à l'un de ses modèles. L'autre, c'est Zoé Valdez qui, dans Et la terre de leur corps, dans la collection Cartel aux éditions de la RMN, se penche sur la figure de Gauguin lors de ses derniers jours. Bonjour Camille Laurence.
Bonjour.
Alors écrivain ou écrivaine pour vous ?
Maintenant, je dis volontiers écrivaine.
Ah oui, d'accord. Oui. Donc si on entend...
J'ai mis un petit peu de temps.
Parce que quoi, c'était dur d'entendre...
Je n'avais pas l'habitude... voilà, et puis j'entendais veine dans écrivaine, oui. Alors qu'en fait il y a vin dans écrivain.
Oui, donc... mais peut-être parce que le vin inspire les écrivains, en fait,
ah,
et
vin,
que du coup
oui.
Ça gênait pas, en fait.
Oui, voilà. Mais la vanité n'inspire personne.
Bonjour Zoé Valdez.
Bonjour.
Vous êtes à ma droite, en face de Camille Laurence. Écrivain ou écrivaine, pour votre part ?
Les deux, ça ne me dérange pas. En espagnol, c'est escritora, donc c'est un féminin.
Ah, on féminise. Oui. Escritor, escritora.
Oui, oui.
Ah, très bien.
Écrivaine, ça me va très bien.
Ah bah très bien, on va dire escritora, c'est parfait. Camille Laurence, vous redonnez vie dans La petite danseuse de 14 ans à cette statue faite par Degas qu'il avait montrée à l'exposition impressionniste de 1881. Alors, c'est une statue qui, au départ, était en cire avant d'être en bronze, hein, c'est ça ?
Oui, c'est-à-dire que maintenant, nous la connaissons en bronze parce qu'ensuite, il y a eu des...
Au musée d'Orsay.
Des moulages, voilà. Mais à l'origine, elle était en cire, qui était normalement un matériau qu'on utilisait en préparation et que Degas a décidé d'exposer ainsi.
Alors, elle est en cire, elle est coiffée de vrais cheveux, vêtue d'un vrai tutu, d'un nœud de soie donc dans ses cheveux, et chaussée de véritables chaussons aussi. Elle fit scandale lorsqu'elle fut montrée, on l'a même comparée à un singe. On disait à l'époque qu'elle avait un visage où tous les vices impriment leur détestable promesse, marque d'un caractère particulièrement vicieux. Alors, elle est mondialement célèbre, cette danseuse, mais elle reste une parfaite inconnue. On ne sait rien d'elle, excepté son âge et son métier, ou sa fonction danseuse. Et vous avez décidé, Camille Laurence, de lui redonner une existence. Est-ce que c'est parce que vous étiez agacée, ou peut-être triste, que cette jeune femme soit, dans la perception commune, en tout cas, non pas un être vivant, mais une œuvre d'art, non pas un être de chair, mais un être de bronze ou de cire, que vous avez décidé de lui redonner chair, de lui redonner existence.
Oui, bah parce que j'avais toujours, depuis très très longtemps, des reproductions de cette sculpture. Voilà, c'était une œuvre chère à mon cœur. Et je ne savais pas du tout qui elle était. Mais d'ailleurs, quand j'ai commencé le travail d'enquête, je ne savais pratiquement rien. Je savais vaguement qu'il y avait eu un scandale au moment de l'exposition. Mais j'ai eu envie de savoir, oui, qui elle était.
Et pourquoi, justement ? Pour réparer quelque chose ?
Au départ, non. Au départ, juste pour savoir, parce que c'était une... Mais je ne savais pas moi-même ce que j'allais trouver. Et en fait, le livre s'est déroulé au fil de l'enquête. C'est aussi j'ai aussi appris des choses sur moi-même et sur les raisons pour lesquelles j'aimais cette sculpture. Donc c'est aussi... une enquête sur la relation que j'ai avec cette œuvre.
Et donc aussi, et ce modèle avant l'œuvre.
Et ce modèle, oui.
Zoé Valdez, vous avez, vous, décidé de saisir Gauguin, le grand peintre Gauguin, dans les derniers instants de sa vie, dans l'île de ses derniers jours, qui s'appelle Ivaoa, c'est dans l'archipel des Marquises. Le peintre est en train de mourir, son corps brûle, exhale la maladie, exsude le désir aussi, les prises de laudanum n'y font rien, il se souvient, il délire, les souvenirs à Arles avec Van Gogh, les corps, Volard, la maison du jouir où il vivait. C'est un très court texte qui semble donner l'impression de jaillir comme la couleur en dehors d'un tube. C'est un texte qui est très physique, qui est plein de matière aussi. Je vous pose un petit peu la même question qu'à Camille Laurence. Est-ce qu'il y avait quelque chose aussi à réparer dans ces derniers jours de Gauguin, dont finalement on sait assez peu de choses?
Oui, je voulais surtout décrire la maladie, décrire aussi le désir, et essayer de faire avec l'écriture une peinture. Peindre seulement ces derniers moments, mais surtout parler de son désir, parce que je trouvais que c'était, quand on voit ses derniers tableaux, et surtout quand on voit son dernier autoportrait, qu'on voit à l'exposition de Gauguin au Grand Palais, c'est un petit dessin où il est chauve, il est déjà vieux et tout ça. On voit quand même dans ses yeux et dans son visage le désir. C'est-à-dire c'est un homme malade, mais c'est un homme qui a l'envie, qui a le désir toujours.
Mmh. Vous parlez de la rétrospective au Grand Palais, hein, qui a lieu en ce moment. Et alors le fait justement, vous disiez, faire une œuvre de mots qui soit une peinture, qu'est-ce que ça implique quand on est écrivain, d'ailleurs vous Zoé Valdès et vous Camille Laurence, et qu'on se frotte à une autre matière, qui n'est pas celle des mots, qui est celle de la cire, alors pour Degas, Camille Laurence, et qui est celle du tube de la peinture pour Gauguin. Qu'est-ce que ça fait quand même de sortir de son art pour aller se frotter à la création d'un autre?
Moi, je fais de la peinture aussi, mm-hmm. donc je suis très, très proche de... J'ai toujours aussi travaillé avec...
Oui, mais pas
des... là. Non, là, non, non, une... voilà. Ça, c'est pas... Mm. C'est une autre chose. Mais quand on écrit, on fait pas mal... Moi, je fais pas mal de dessins. C'est-à-dire, j'ai décrit, par exemple, les rêves de Gauguin dans ses petits livres. Je dessinais ses rêves.
Avant de les écrire.
J'aime bien jouer avec ça. Et j'ai beaucoup travaillé aussi avec des peintres cubains, avec... J'ai eu une galerie pendant un moment à Paris, donc j'aime beaucoup travailler avec les gens qui ont l'image par matière première. C'est d'abord un visage ou un geste ou une main. Il y a un moment dans le livre de Camille Laurent que j'adore, c'est le moment où la petite poupée de cire va être... on la met dans l'eau, elle va être... Elle devient une peinture, parce qu'elle perd sa forme, donc elle devient une peinture dans l'eau.
Oui, de la matière
ça, c'est
pure.
C'est très beau dans son roman.
Et Camille Laurent, justement, le fait de se frotter en plus Degas, alors comme Gauguin, mais immense artiste, y aller avec ses... Bon, j'allais dire ces petits mots, ces grands mots aussi, mais face à ce qu'a été une matière, face à cette œuvre aussi, qui est, je le disais, enfin, iconique, emblématique, que tout le monde connaît, est-ce qu'il n'y a pas une forme de timidité ou des précautions qu'on prend ou un défi?
Oui, je ne sais pas, je ne me suis pas vraiment posé la question. Ce qui m'importait, c'était que c'est une sculpture et donc c'est un corps. En fait, c'est ça aussi, pour répondre à votre question précédente, c'est le fait que ce corps de très jeune fille, qui était-elle en fait? Bon, c'est un corps, on peut tourner autour dans les musées. Enfin, le premier rapprochement qui m'est venu, c'est que les hommes tournaient aussi autour d'elle, à l'opéra.
Ils étaient dans la coulisse, enfin.
Ils étaient en coulisse.
Le foyer, je crois qu'on appelait ça.
Au foyer, voilà. Dans les coulisses, ils avaient le droit d'assister aux répétitions. Ouais. On les voit dans les tableaux. D'ailleurs, il y en a un à l'exposition Gauguin. Oui. Il y a un tableau, c'est une répétition de ballet, et on voit un homme en chapeau de forme, tout en noir, qui est assis au fond et qui regarde. Ils venaient faire leur marché érotique.
Exactement.
Et donc, il y avait cette dimension du corps, évidemment, du mouvement, qui était l'obsession de Degas. Comment capter le mouvement? C'est pour ça qu'il s'intéresse à la danse, aux courses de chevaux. Enfin, c'était... Et moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Comment est-ce que, dans un art, quel qu'il soit, on arrive à capter le mouvement, le corps, le désir, effectivement, tout ce qui fait que nous-mêmes, nous sommes en vie.
Avec des mots, simplement, face à d'autres matières. La peinture pour Gauguin, la cire ici, dans le cas de cette danseuse de Degas.
Oui, mais du coup, ça, pour moi, c'est quelque chose de mystérieux, parce qu'effectivement, c'est pas un art que je maîtrise du tout, mais c'est en quelque sorte rechercher avec les mots, la trace des doigts dans la cire.
Exactement. Merci à toutes les deux de participer à cette émission. Il y a une citation de Théophile Gautier qui ouvre votre livre, Camille Laurence, sur laquelle j'aimerais bien qu'on s'arrête un instant, car elle me semble d'ailleurs faire écho au texte de Zoé Valdès. Je le cite. « Quelle singulière destinée que celle de ces pauvres filles, frêles créatures offertes en sacrifice aux Minotaures parisiens, ce monstre bien autrement redoutable que le Minotaure antique et qui dévore chaque année les vierges par centaines sans que jamais aucun Thésée ne vienne à leur secours. » C'est comme ça que vous voyez l'artiste, Camille Laurence?
En tout cas, c'est comme ça que Théophile Gautier voyait son époque, et c'est tout de même intéressant. C'est surtout l'opéra là qui était une souricière, mais enfin, je crois que la condition des femmes, parce que c'est un livre qui m'a aussi permis de réfléchir à l'évolution de la condition des femmes, mais en tout cas, la condition des jeunes femmes, des jeunes filles, était extrêmement douloureuse. Alors, effectivement, on peut faire des liens avec le livre de Zoé Valdès, parce que les vaïnées, on sait bien que les vaïnées qui qui ont été les compagnes successives de Gauguin étaient très jeunes. Hein, je crois qu'elles avaient 13 ans, 13-14 ans.
Oui, ils ont la, c'est le même
c'est
âge.
C'est le même âge, c'est le même âge, oui.
Que
mais,
la danseuse.
Bon, en même temps, la majorité sexuelle en France était fixée à 13 ans, donc ce n'était pas du tout les mêmes repères que maintenant.
Justement, pour revenir à ce Minotaure, il y a cette citation dans votre texte, Zoé Valdès, et la terre de leur corps. Des rires pervers, nerveux, son propre rire aussi multiplié en une cascade d'échos, le rire du prédateur qui, affamé, poursuit sa proie, qui l'atteint et la mord à la nuque. Il lèche sa peau parfumée, pulpeuse et tatouée de ses dessins huileux, magistraux et synthétiques. Il griffe, fiche les crocs, étripe, suce les os en leur extrayant de la pointe de la langue le goût fruité de la moelle. On est là, le Minotaure est là. Ça vous va aussi cette comparaison que faisait Camille Laurence avec ces hommes aussi et ces femmes, ces artistes aussi, regardant là, parce que là, c'est pas uniquement les messieurs ventrus, les bourgeois en fait, qui venaient se servir, mais le regard de l'artiste sur son modèle à la façon d'un Minotaure, puisque Degas est le Minotaure parisien. Ça vous convient bien, ça, Zoé Valdès?
Oui, bien sûr. Et puis, c'est connu aussi que Gauguin a cherché aussi un peu la sauvagerie. Il était un peintre qui voulait exprimer ça, donc il aimait ça, il aimait aussi découvrir à chaque fois les corps de la jeune fille, pas seulement à travers la peinture, mais aussi à travers sa relation amoureuse surtout, et sa sexualité. C'était très important pour lui, parce que je trouve que sa peinture s'est nourrie essentiellement à une époque, surtout à l'époque aussi de la Martinique, aussi de la, quand il peint par exemple les garçons qu'il ne peut pas, parce que c'était interdit à l'époque de peindre les jeunes filles, il cherche ça, il cherche la sauvagerie, il cherche la sexualité. Ça l'intéresse.
Qu'est-ce qui était interdit, pardon, de peindre les jeunes filles?
À une époque, quand il a commencé à découvrir surtout les corps et à découvrir ce qu'il allait faire à la Martinique, au Panama et puis aux îles Marquises et tout ça, avant ça, il a commencé à peindre la nudité, mais il ne pouvait pas peindre les corps des jeunes filles. Donc il a commencé à peindre les corps des petits garçons.
Alors, cette image de Minotaure qui exprime cette transfiguration peut-être du modèle charnel en œuvre d'art, elle est un petit peu différente en fait dans vos deux livres. Zoé Valdès, vous insistez sur la façon dont Gauguin tombe amoureux systématiquement de ses modèles, enfin en tout cas amoureux, le principe d'héros c'est au cœur de sa création artistique. Je vous cite, pour Paul, le véritable sens de la vie résidait exclusivement dans la création et l'amour. Sans amour, il était incapable de peindre ou de sculpter aussi ses statuettes d'argile, car il y a aussi de la sculpture chez Gauguin. Et c'est totalement inversé en fait chez Degas, puisque Degas place, là je cite Camille Laurence, place la création au-dessus de toute activité. Toute sa sensualité, tout son désir se tourne vers l'œuvre dont le modèle n'est que le prétexte. Donc c'est un Minotaure bien inoffensif finalement.
Ah oui, non, mais je ne dirais pas que Degas était le Minotaure pour Marie Van Gutem, donc la petite danseuse de 14 ans. C'est une sorte d'anti-Gauguin, Degas, parce qu'on ne lui connaît aucune liaison, aucune maîtresse. Enfin, il vit uniquement pour son art, il vit avec une gouvernante qui lui prépare ses repas, qui lui lit le journal, mais c'était d'ailleurs très connu dans le milieu des peintres à l'époque. Tout le monde plaisantait ou pas d'ailleurs, mais enfin, tous les ragots disaient, mais Degas est incapable d'aimer une femme. Degas ne s'intéressait qu'à son art. Donc sa sensualité, c'est très mystérieux d'ailleurs, le rapport qu'il pouvait avoir avec ses modèles. Toute sa sensualité passait, surtout dans la sculpture. Quand il a commencé à devenir aveugle, il a surtout sculpté, et donc elle passait dans les mains, dans le modelage de la matière.
Mais, qui est une forme de sensualité aussi.
Oui, bien sûr.
Et de donner la vie, qui est peut-être le plaisir le plus extrême, de créer justement des formes.
Bien sûr, mais n'avait aucun rapport direct avec le corps féminin. Et son rapport au féminin en général est assez mystérieux.
Et comment on fait en tant qu'écrivaine, en tant que escritora, pour se glisser dans la peau, mais en tout cas dans le regard de deux artistes masculins, majeurs du 19e siècle, qui ont ce rapport aussi particulier justement avec le corps des femmes, qu'il soit totalement assumé, assouvi chez Gauguin, ou très très ambigu, en tout cas pas du tout consommé chez Degas. Comment est-ce qu'on fait pour essayer de percevoir leur inspiration, ou leur idée de représentation?
Moi, j'ai fait une enquête en lisant beaucoup de correspondances, parce que dans les lettres, on perçoit beaucoup de ce que peuvent être ceux qui les écrivent. Et donc, Degas a beaucoup écrit, on voit bien, on perçoit sa misogynie. Il y a beaucoup de témoignages, d'ailleurs, aussi, de l'entourage de Degas, du fils de Ludovic Halévy, qui a écrit tout un livre qui s'appelle « Degas parle », où on perçoit ce qu'était sa vie. Et on voit bien que son rapport au féminin était complexe et que...
Dans l'élaboration du livre.
Un peintre, un sculpteur qui a passé toute sa vie à peindre ou à sculpter des femmes et qui, dans sa propre vie, n'en aime aucune, il a tenu des propos extrêmement négatifs envers les femmes. C'est tout de même... un paradoxe qui m'a intéressé.
Mais cette image-là, justement, du peintre, contrairement à rebours, en fait, de l'image, en fait, du peintre qui dévore son modèle, ou qui lui fait l'amour, ça a joué aussi dans le fait que vous confrontiez à cet artiste-là, à son modèle, mais donc à cet artiste-là, Degas, en tant qu'écrivaine.
Oui, ça a sûrement joué. Ce qui m'a interpellée, comme on dit, c'est la contradiction, au fond, entre ce qui a fait toute sa vie comme artiste et le vide que c'était dans sa vie.
Et vous, Zoé Valdez, quand vous décrivez le rapport de Gauguin à la peinture, vous utilisez aussi une image féminine, puisque vous dites que la peinture l'accueillit dans son sein comme une mère, une maîtresse, comme une épouse. En fait, ce n'est pas seulement le modèle qui est féminin, c'est la peinture même qui devient sexuée, en fait.
Oui, mais je n'ai aucun problème avec ça. J'ai toujours dit que... quand j'écris un roman, je suis les personnages féminins, mais aussi les personnages masculins. Ce qui m'intéresse, c'est évidemment ma vision des femmes là, parce que je suis une femme, mais en tant qu'écrivain, je suis aussi un homme. Quand j'écris, je deviens Gauguin, je deviens mon grand-père chinois dans l'éternité de l'instinct, je deviens... les machistes de Café Nostalgie à qui veut tuer sa femme. Donc, j'ai aucun problème avec ça. C'est ce que me permet l'écriture à travers, et surtout à travers ces livres, c'est de devenir Gauguin, d'essayer de prendre son trait là où il s'est arrêté avec l'écriture, de continuer ses traits jusqu'à la fin de mon test.
La fin d'un texte. On va continuer à explorer ces liens entre la littérature et l'art, cette façon qu'a la littérature, dans vos deux cas, Zoé Valdez et Camille Laurence, de se confronter à l'art d'un autre. On commence avec vous, Camille Laurence, mais on écoute d'abord votre choix musical. Vous avez choisi un extrait de Coppelia. On écoute. Coppelia, la valse de la poupée, c'est le choix de Camille Laurence qui publie chez Stock La petite danseuse de 14 ans qui fait référence à cette œuvre, à cette statue de cire puis de bronze de Degas. J'ose même pas vous demander pourquoi ce choix musical, Camille Laurence, parce qu'on les voit tellement là, les petites danseuses.
Oui, on les voit en les entendant, mais... c'est aussi que Coppelia, c'est un ballet de l'époque, de la fin du 19e siècle. Et je trouve qu'il y a quand même un contraste saisissant entre la joliesse de cette musique et la difficulté, la dureté du travail de ces danseuses, c'est toujours vrai. Mais vraiment, à la fin du 19e siècle, les conditions de vie des petits rats de l'opéra étaient dramatiques. Et quand on entend cette musique, voilà, on a que la vision de l'univers, de la beauté, de la danse. Mais Degas, d'ailleurs, lui, a montré l'envers du décor. Et cette petite danseuse de 14 ans est emblématique de cette douleur constante, y compris dans sa vie, puisqu'elle venait d'un milieu très pauvre, elle vivait très pauvrement. Et en même temps, elle était dans cet univers de paillettes, de beauté, de grâce. Et ensuite, elle rentrait dans son taudis.
Est-ce que la musique influence votre travail d'écrivain? Et particulièrement pour ce livre, est-ce que la transformation de votre contemplation de spectatrice, de cette petite statue en fait qu'on peut voir au musée d'Orsay, a été accompagnée par une musique, donc cette transformation de votre contemplation en texte littéraire a été accompagnée par une musique particulière? Est-ce que Coppelia, par exemple, a été beaucoup écoutée?
Non, pas du tout, non. Je n'écoute pas du tout de musique quand j'écris, parce que c'est comme en contradiction avec mon rythme intérieur. En fait, quand j'écoute surtout des voix, parce que c'est la voix qui, pour moi, apporte le corps dans l'écoute.
Et voilà, quelle est la voix que vous écoutez ou quelles sont les voix ?
J'écoute beaucoup de voix d'opéra, mais je suis très très sensible à l'opéra. Mais j'ai écouté, je me souviens d'avoir écouté en écrivant ce livre, particulièrement la Traviata, que j'adore. Donc il y a aussi quelque chose de ce milieu, et de la fin du 19e siècle.
Et de la maladie.
Et de la maladie, de la prostitution.
Exactement. Voilà, l'envers du
univers,
décor.
Oui.
Alors c'est un petit rat, hein, cette petite danseuse de 14 ans. On ne connaît rien d'autre que son âge et sa fonction, hein, donc danseuse à l'opéra. On peut s'étonner, je pose la question Camille Laurence, de cette passion que vous montrez d'ailleurs dans le livre, à chercher derrière une œuvre dont on pourrait penser qu'elle a une existence propre, d'aller chercher derrière cette œuvre une forme de préhistoire qui n'a peut-être rien à voir avec l'œuvre. Par exemple, beaucoup de gens, toujours aujourd'hui, s'escriment à savoir qui était la vraie Joconde ou qui était la femme ou l'homme, parfois, qui est devenue la Joconde ou à qui appartenait le sexe qu'on voit dans l'origine du monde, alors que c'est l'origine du monde et pas seulement le sexe de quelqu'un. L'œuvre, au fond, elle existe en tant que telle.
Oui,
pourquoi vouloir l'histoire ?
Je suis d'accord, mais moi j'ai une passion pour le réel. J'avais pas envie de rester dans cette représentation artistique, mais j'avais envie de connaître la réalité qui avait précédé, en effet, cette œuvre. Parce qu'il y a aussi l'histoire, hein, la petite histoire de cette jeune fille, mais aussi l'histoire avec sa grande hache, comme disait Pérec, c'est aussi quelqu'un qui a été sacrifié.
Alors, je vous dis ça parce que souvent aux écrivains, on demande, mais on a dû vous le demander, alors est-ce que c'est autobiographique, est-ce que c'est biographique, etc. Et cette question-là, elle embête toujours les écrivains, parce que tout est biographique et tout ne l'est pas. Et en fait, vous faites la même chose. Degas a fait cette œuvre et vous allez chercher les éléments de biographie, les éléments de réalité derrière une œuvre.
Oui, c'est vrai, mais d'ailleurs, on peut considérer que ce livre est également autobiographique parce que je vais aussi trouver en écrivant des éléments de moi-même. Voilà.
Oui, mais quand même, derrière l'œuvre qui est... Je le dis parce que pour l'origine du monde, ça me frappe beaucoup à chaque fois parce que aujourd'hui, dans ce monde étrange dans lequel on vit, notamment des réseaux sociaux, poster l'origine du monde, c'est prendre un risque énorme sur les réseaux sociaux parce qu'ils voient dans l'origine du monde un sexe de femme, une pure représentation de sexe de femme. C'est ça, mais c'est bien autre chose que ça.
Mais le fait de savoir comment on aboutit à cette œuvre n'empêche pas que l'œuvre existe dans son génie. Ça n'est pas incompatible.
Moi, ce que je trouve qui est très très beau dans son livre, c'est qu'il y a une relation incroyable entre elle, son histoire qu'on va, je ne veux pas découvrir la fin parce que c'est très beau, c'est très très beau à la fin, son histoire et l'histoire de cette jeune fille, et c'est ça qui est intéressant parce que on veut savoir qui est cette fille et à la fin, évidemment, on va avoir une belle surprise, une énorme surprise. Et donc, je trouve ça merveilleux.
Donc vous pensez aussi, Zoé Valdez, qu'au fond, l'œuvre d'art est à la fois un instrument peut-être de connaissance du monde ou de la connaissance de l'œuvre d'un artiste, mais aussi pour se connaître soi-même.
Oui, il y a toujours une relation, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une relation différente toujours à chaque fois entre la personne qui contemple, qui observe une œuvre d'art et son histoire à soi-même. C'est une lecture individuelle, intime. C'est ça que je voulais aussi décrire, ma relation avec l'œuvre de Gauguin.
Vous nous parliez, Camille Laurence, de la façon dont on peut faire le tour de cette danseuse au musée, la regarder sous toutes les coutures, pratiquement. Vous avez fait ça pour écrire le livre. Et c'est de là aussi qu'est parti ce questionnement que vous faites sur vous-même, à travers ce livre aussi.
Oui, il y a cette idée de tourner autour, de tourner pour avoir une vision sous différents angles, différents points de vue, et c'est ce que j'ai voulu faire aussi, le point de vue historique, sociologique, social, esthétique, humain, c'était ça aussi l'idée.
Alors vous accordez une grande importance à son nom, elle s'appelait Geneviève von Goethem.
Marie-Geneviève von Goethem.
On sent vraiment à travers votre texte une volupté à la nommer, et notamment à faire côtoyer son nom à elle avec celui d'Edgar Degas. Deux noms ensemble dans la même phrase, par exemple, je vous cite, Edgar Degas et Marie von Goethem, l'un est né en 1834, l'autre en 1865, ils sont dans l'atelier, rue Fontaine, deux corps vivants, que 31 ans et tout. Sépare. Ou une autre phrase. Dans cet atelier, Marie von Goethem et Edgar Degas partagent un espace matériel qui est aussi un lieu symbolique, un ailleurs qui subsume même leur travail à deux. On sent vraiment une volonté d'accoler ces deux noms, le nom totalement oublié, inconnu, et le nom illustre de Degas.
Oui, je voulais lui rendre justice. Et puis, je me suis fait une représentation, là, peut-être presque onirique, de eux deux dans l'atelier. Il y a eu un moment, même plusieurs moments, des heures, où ils étaient tous les deux. Puis Degas ne voulait personne dans l'atelier, hein, ni les mères des modèles, ni la gouvernante. Et voilà, c'était vraiment un lieu à eux. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé entre cet homme qui était très très mal à l'aise avec les femmes, et puis cette toute jeune fille qui venait poser aussi par nécessité, parce qu'elle gagnait plus d'argent qu'à l'opéra.
Mais lui redonner un nom, en quoi cela avait tellement d'importance pour vous? On sent en fait que vous voulez marteler, il faut que son nom apparaisse plusieurs fois dans le texte.
Parce que tant qu'elle est cette statue, elle est un personnage, un petit peu comme on pourrait le dire dans un roman, et j'avais envie qu'elle devienne une personne. Et une personne a un nom, qui est son nom de famille. Et je l'ai recherché dans l'état civil, et ça, pour moi, ce sont des grands moments d'émotion, mais vraiment bouleversants, parce que tout d'un coup, elle apparaissait, sa date de naissance, le nom de la sage-femme, enfin, il y a un effet de réel qui, moi, m'intéresse beaucoup, mais même dans mes autres textes, j'aime cette confrontation à la réalité de la vie.
Vous opérez d'ailleurs dans ce texte une sorte d'inversion extrêmement intéressante. Je voudrais qu'on va en parler, mais je voudrais qu'on vous entende lire justement un extrait, et l'inversion se produit notamment ici.
La petite danseuse de 1880 a été renvoyée après quelques années de labeur. Le directeur en a eu assez de ses absences à répétition, 11 rien qu'au dernier trimestre. C'est qu'elle avait un autre métier, et même deux, parce que les quelques sous gagnés à l'opéra ne suffisaient pas à la nourrir, elle ni sa famille. Elle était modèle, elle posait pour des peintres ou des sculpteurs. Parmi eux, il y avait Edgar Degas. Savait-elle, quand elle posait dans son atelier, que grâce à lui, elle mourrait moins que les autres petites filles? Stupide question, comme si l'œuvre comptait plus que la vie. Ça lui aurait fait une belle jambe, c'est le cas de le dire, de savoir qu'un siècle après sa mort, on tournerait encore autour d'elle dans les hautes salles des musées, comme ces messieurs au foyer de l'opéra, qu'on la considérerait de haut en bas et de bas en haut comme ses clients dans les bouges où elle vendait son corps sur ordre de sa mère, son corps frêle devenu bronze. Mais peut-être que si, après tout, peut-être qu'elle y pensait quelquefois, qui sait. N'avait-elle pas entendu parler de la Joconde mise à l'abri pendant la guerre contre la Prusse et réinstallée au Louvre après la défaite, que le tout Paris courait admirer et dont on diffusait déjà l'image grâce aux nouvelles techniques de reprographie? Lorsqu'elle posait pour lui des heures durant, se fatiguant dans cette position dite de repos, une jambe en avant, les mains nouées dans le dos, silencieuse, a-t-elle songé que M. Degas avait assez de talent pour la rendre célèbre, elle aussi, et que sa petite silhouette de figurante serait un jour une étoile admirée? A-t-elle imaginé pareil avenir? Une gloire que la danse ne lui donnerait jamais? C'est possible, après tout. Les petites filles ont de ces rêves.
Merci Camille Laurent, c'est un extrait de La petite danseuse de 14 ans qui paraît chez Stock. Là, il y a une part de fiction.
Oui, parce que je me suis représentée, voilà. Bien entendu, oui, je me suis représentée les choses, ouais. Oui, ce qu'elle pouvait penser, ce qu'elle pouvait désirer, espérer, oui. Mais toujours en fait aussi en relation avec moi-même en tant que ancienne petite fille.
On reste toujours un petit peu. Paul Valéry résume bien le travail de Degas. D'ailleurs, vous le citez, hein, il souligne que Degas s'acharne à reproduire, entre guillemets, l'animal féminin spécialisé, esclave de la danse. Il a beau s'attacher aux danseuses, il les capture plutôt qu'il ne les enjôle, il les définit. Ce que montre Degas, en effet, c'est pas la danseuse mythique, c'est la travailleuse ordinaire. Et vous le dites aussi, hein, Camille Laurent, ce n'est pas l'idole sous les feux de la rampe, mais la besogneuse de l'ombre, pas l'objet de divertissement et de plaisir, mais le sujet aux prises avec la sinistre réalité. Et Jacques-Émile Blanche le soulignait, sous l'œil de Degas, les danseuses cessent d'être nymphes ou papillons pour retomber dans leur misère et trahir leurs vraies conditions. C'est une mercenaire abêtie par de mécaniques zébas et de monotones sots, comme le disait Huysmans. Il est beaucoup question d'écrivains aussi dans votre texte. Elle les a obsédés tous, en fait, cette danseuse. Pourquoi, à votre avis ?
Je pense que elle est le reflet de leur époque aussi, et de leur, éventuellement de leur désir, sans doute, et parfois de leur honte. Et donc, c'est un curieux mélange. Mais Huysmans, bon, enfin, Huysmans, ce rapport aux femmes était assez proche de celui de Degas. On peut pas dire que c'était un homme très féministe.
Il parlait des femmes pot-au-feu.
Oui. Non,
ça fait jaser à l'époque.
C'est assez terrible. Oui. Mais il y a une cruauté chez Degas, mais qui est aussi un regard clinique sur son époque. C'est assez proche des écrivains réalistes de l'époque, de Zola notamment, pour le milieu social. Et c'est aussi la grandeur de Degas que d'avoir montré l'envers du décor quand tout le monde peignait des jolies dames sous des ombrelles.
Ou des symboles, à l'époque.
Ou des symboles,
c'est l'époque,
voilà,
du symbolisme.
On est vraiment dans la cruauté du réel.
Alors Huysmans, dont on parlait, quand il évoquait cette danseuse, parfois il partait très loin dans la rêverie. Cette danseuse, je le rappelle, elle était traitée de guenon ou d'aztèque. Alors aztèque était une insulte. Huysmans, en effet, il a défendu l'œuvre. Il rappelait à son sujet, d'ailleurs il le disait, les sculptures polychromes espagnoles. Il la comparait au Christ de la cathédrale de Burgos, dont les cheveux sont de vrais cheveux, les épines de vraies épines, la draperie une vraie étoffe. Vous, au contraire, j'ai l'impression, Camille Laurence, que quand vous la décrivez, vous ne voulez pas partir loin. « J'ai besoin de la réalité, elle sous-tend mon désir », écrivez-vous en affirmant « le modèle de la non-fiction s'est imposé aussitôt ». Et je me suis demandé, est-ce que finalement vous ne cherchiez pas, à travers ce texte, une forme de complicité esthétique avec Degas ? Degas qui disait « le plus beau dessin, le plus étudié, reste toujours en deçà de la vraie, de l'absolue vérité, et par là même, il laisse place au chiquet ». La vraie vérité, il l'approchait grâce au modelage, en fait, plus que par le dessin ou la peinture. Est-ce qu'il y a eu une volonté chez vous de toucher ce que Degas voulait toucher lui-même?
Complètement, c'est tout à fait juste. C'est-à-dire que pour chaque livre, je cherche une forme qui soit adaptée à mon sujet. Et là, en effet, je voulais être au plus près de ce que Degas lui-même a fait, à mon sens. C'est-à-dire rester au plus près de la réalité sans fioriture. Là, il n'y en a vraiment aucune chez Degas. Et donc, ne pas déguiser, rêver le moins possible, bon, même si je l'ai fait un petit peu, mais être au plus près, au ras de la réalité, de ce que ça pouvait être comme vie pour cette jeune fille.
Mais quand vous avez lu tout à l'heure cet extrait et que vous imaginiez en fait ce que pouvait ressentir, ce à quoi pouvait rêver cette
sous
jeune fille.
Sous forme d'hypothèse. Hein,
d'hypothèse,
oui,
exactement. Oui. Degas disait qu'il voulait, ou vous, je ne sais plus si c'est Degas d'ailleurs ou si c'est vous, Camille Laurence, qui le dites. C'est donc bien le dessin qui prépare à la conquête du vrai. Ensuite, les mains touchent le corps, puis elles sculptent la cire pour toucher l'âme. Est-ce que toucher l'âme aussi, c'était, je vais pas dire une de vos missions dans ce texte, mais en tout cas, un des défis que vous avez essayé de relever?
Oh bah, je crois que c'est le défi de tout écrivain. Mais de tout artiste, de toucher l'âme.
De toucher enfin, l'âme.
Bah, oui, toucher l'âme, sinon, hein, à quoi bon?
Toucher l'âme de son sujet.
Mais toucher l'âme de son sujet, toucher l'âme de son lecteur, toucher... Oui, arriver à une vérité, en fait, puisque Degas était très sensible à la vérité, oui. La vérité de la vie, comme il disait, j'aime beaucoup cette expression, la vérité de la vie. Ouais. Et
vous méfiez de l'illusion en littérature? Vous vous méfiez des mots, en fait?
Non, mais mon intérêt personnel, pour autant je lis énormément de romans et je suis passionnée par la fiction, hein, je ne suis pas du tout, comme on veut le croire parfois, une obsédée de la non-fiction, pas du tout. J'écris beaucoup de fiction, mais... Pour ce sujet-là, c'était absolument impossible de déguiser la réalité sous des fictions. Mmh. Enfin, je voulais le faire le moins possible.
Vous citez René Huyg, qui était professeur au Collège de France, qui était spécialiste d'art, en fait, qui disait de cette œuvre, de cette petite danseuse de 14 ans, qu'elle était en résidence forcée dans le réel.
Oui.
Vous avez-vous tenu à citer cette expression?
Oui, bah, et oui, je la trouve magnifique et très juste. Bah, en résidence forcée dans le réel, c'est-à-dire que l'œuvre est... ancrée dans la réalité la plus sordide, qui était celle de ce modèle, mais c'est aussi que la danseuse elle-même était en résidence forcée dans le réel, parce qu'elle n'avait aucune échappatoire, elle ne pouvait pas sortir de cette vie. Elle en est sortie vraisemblablement par la prostitution, donc elle n'avait pas le choix.
The Valdès, vous avez au contraire choisi... une forme de fiction, en fait, pour aborder cette réalité à la fois de l'agonie de Gauguin et de la peinture de Gauguin. On a entendu Camille Laurence, là, qui disait, pour moi, c'était la non-fiction qui s'imposait. En quoi ce choix narratif de la fiction vous permettait, vous, d'exprimer, justement, cette relation à la fois entre Gauguin et ses modèles, puisqu'il en est question, mais aussi la relation que vous pouvez avoir avec Gauguin?
Oui, c'était très très simple, c'était la continuité, c'est-à-dire continuer les tableaux, la peinture de Gauguin par l'écriture. C'était simplement ça, c'était d'écrire ses rencontres avec ses filles, surtout à avec ses filles qui venaient les voir.
Mais pourquoi par la fiction et pas justement par la non-fiction, par un travail?
Parce que j'avais déjà trop écrit sur Gauguin en tant que critique d'art, j'avais... pas mal travaillé pour Arts Atelier City, une revue d'art et tout ça. J'avais beaucoup écrit.
Qui s'appelait comment, pardon?
Arts Atelier City.
Oui.
Sur la peinture de Gauguin. Et j'avais envie, justement, de recréer sa peinture à travers la fiction.
On va se pencher sur votre texte qui s'intitule Et la terre de leur corps, qui paraît dans la collection Cartel à la RMN. Mais d'abord, on écoute votre choix musical. Vous avez choisi Chopin, l'impromptu numéro 3 en sol bémol majeur, opus 51, interprété par Alain Planès.
Thank you.
Chopin, l'impromptu numéro 3 en sol bémol majeur, opus 51. C'est le choix de Zoé Valdez qui publie Et la terre de leur corps dans la collection Cartel à la RMN, un texte consacré au dernier jour, à l'agonie de Gauguin sur une petite île de l'archipel des Marquises. Zoé Valdez, pourquoi ce choix musical?
C'est joué par Alain Planès, c'est un pianiste que j'adore. Et puis c'est un travail qu'il a fait aussi, je ne sais pas si vous avez vu la couverture du disque, c'est Miquel Barceló, le peintre catalan, espagnol. Et c'est un travail de musicien peintre, et j'ai choisi Chopin et ses travaux d'Alain Planès et Barceló pour travailler sur Gauguin.
Alors, vous êtes né à La Havane, est-ce que la musique, puisque je posais la question à Camille Laurence aussi, joue un rôle particulier dans votre travail d'écrivain, de escritora, hein, parce que j'ai du mal, d'écrivaine. Ou est-ce que je suis en train de vous poser une question complètement cliché, parce que vous êtes cubaine, la musique jouerait un rôle plus important que quand on est française?
Non, ça joue évidemment, c'est... En tant qu'Havanaise, oui, il y a beaucoup de musique autour de nous. J'ai une formation musicale à travers ma mère, ma grand-mère. Donc c'est important, la musique, c'est très important pour, évidemment, pour les Cubains, pour les Havanais aussi, surtout. Et il y a évidemment une époque où la musique, c'était l'identité de cette ville, plus que la littérature et plus que la couleur de la peinture, même si on a eu Wilfredo Lam, Porto Carrero et tous ces grands peintres qui ont fait de la lumière cubaine leur œuvre meilleure, mais il y avait surtout, c'était surtout la musique. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé, parce qu'aujourd'hui, comme partout, c'est l'horreur du reggaeton et tout
Le reggaeton,
qui est
vous connaissez terrible. Camille Laurence, le reggaeton, voilà, qui est toute terrible. L'Amérique latine, en fait.
C'est toute l'Amérique latine, mais la vraie musique cubaine et la musique aussi, par exemple, il y a énormément de musiciens de musique classique cubaine qu'on ne connaît pas, qu'on ignore.
Alors on va écouter votre musique à vous, Zoé Valdez, avec un extrait de « Et la terre de leur corps », donc consacré à Paul Gauguin.
Alors c'est ma musique à moi en français, parce qu'en espagnol j'ai une autre.
Oui, ben oui, pardon.
« Étendu de tout son long bord le plus éloigné du lit, Paul tourna le dos au fantôme, penché sur l'autre mur et fixant des yeux une sorte d'étage composé des multiples nuances de vert, qui se transforma en bosquet touffus, sans voir deux maisons au fond. Au milieu de la forêt, un homme et trois enfants. On aurait dit un de ses tableaux peints en 1901 là-bas, à Ivaoa, intitulé Paysage aux promenades familiales. L'autre mur, tout écaillé et barbouillé, ressemblait à un jardin primitif. Une sorte de jardin tropical, certes. Mais bien sûr, il s'agissait de cette clairière sauvage où il avait rencontré un matin ses enfants qui lui avaient tellement rappelé les siens et avec qui il avait passé un bon moment à déchiffrer la végétation. Et de là, de cette promenade qui n'avait pas quitté son esprit de tous les jours, il avait couru à la hâte coucher la Seine sous la toile, peindre cette étrange excursion dans le seul but d'en faire un plaisage quotidien, de saisir cette belle fugacité de la nature et de la condenser à un instant qui pourrait se multiplier à l'infini.
Merci Zoé Valdez. Donc c'est un extrait de « Et la terre de leur corps », texte que vous venez de publier. C'est une évocation palpitante de chair, de désir, de folie aussi des derniers jours du peintre, donc Gauguin, qui est perclus de douleur, mais qui veut encore peindre justement cet autoportrait dans l'île où il a rendu l'âme aux Marquises. Et il se souvient de sa femme, de ses enfants, de Van Gogh, à Arles notamment, des corps féminins qui l'entourent et qui continuent d'ailleurs à l'entourer. C'est un court texte, je le disais tout à l'heure, qui semble vraiment porté par une lave de mots. Je parlais de peintures qui semblent jaillir des tubes avec des couleurs fauves. On a l'impression de voir des lianes dont on ne sait pas si elles sont de végétation ou de chair brûlante. Camille Laurence, tout à l'heure, parlait d'exigence de vérité. Vous avez-vous opté pour la fiction? Est-ce que, je le disais, même si vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure et vous avez été critique d'art et vous peignez vous-même, quand on se frotte à l'œuvre avec ces mots, ces simples mots à l'œuvre picturale, à l'œuvre totale, parce qu'il y a eu des sculptures de cire chez Gauguin. Oui. Est-ce qu'on y va non sans une certaine peur, ou est-ce qu'on n'est pas intimidé quand il s'agit de mettre des mots sur de la matière, en fait, parce que la peinture, c'est de la matière.
Ah oui, moi j'étais très intimidée, puis j'étais aussi... J'étais comme pour la première fois devant un tableau de Gauguin. Comme je me souviens, la première fois que j'ai vu une image de Gauguin, j'étais à Cuba, j'étais jeune, et je vivais dans une maison où tout tombait comme ça, là, les murs étaient, il n'y avait rien sous les murs, et ma mère vient avec une revue étrangère, et on voit cette image de et l'or de leur corps, un de ces tableaux. Et ma mère l'a arraché cette page, elle a dit, on va la coller sur le mur. Et j'ai senti, au moment de commencer à écrire ce texte, cette sensation d'être intimidée, d'être timide aussi, de découvrir quelque chose qui est grand, mais en même temps qui est à moi, qui est quelque chose qui me décrit aussi à moi.
Et quand des années plus tard, justement, vous êtes amenée à vous confronter à cette œuvre-là, qui petite vous intimidait, où est-ce qu'on trouve le courage ou la force, où est-ce qu'on puise pour oser, en fait, mettre des mots sur cette œuvre-là?
Je crois que à soi-même, parce qu'on a aussi une idée de ce qui peut vous inspirer de cette œuvre et ce qui peut vous enrichir aussi votre écriture. Donc, on cherche aussi dans soi-même. Je trouve que dans votre livre, il y a ça aussi, il y a l'enquête. Et
Camille Laurence.
Oui, mais c'est tout à fait juste. Je pense que le rapport de l'écrivaine à l'œuvre se sent, je pense, dans les deux livres. Dans le livre de Zoé Valdez, ce que je trouve merveilleux, c'est justement que dans l'écriture, on retrouve la sensualité, la luxuriance des tableaux de Gauguin.
Et c'est ça qui est vraiment marquant dans vos deux textes, c'est-à-dire que Zoé Valdez parvient, par les mots, à rendre la luxuriance. Et vous, Camille Laurence, parlez justement être au plus proche du réel. On retrouve presque l'éthique de peintre, l'ascétisme en fait de Delga, le principe de mettre la vérité nue quoi sous l'œil du spectateur.
Oui, mais je pense que c'est ça le travail de l'auteur, c'est de trouver une forme stylistique qui corresponde à son sujet, en l'occurrence là aussi bien pour Zoé que pour moi, l'œuvre.
Alors Zoé Valdez, vous décrivez finalement assez peu, vous les évoquez mais vous les décrivez peu, les tableaux de Gauguin, vous les transformez davantage en vision, en cauchemar, en hallucination qui hante le peintre. Il y a la chambre voisine qui est envahie par les poules et les chats, le retour accusateur de ses enfants comme des fantômes, la rencontre... Moi, je vois des images. C'est la rencontre avec Van Gogh où ils se battent l'un sur le bleu, l'autre sur le vert, puisque Van Gogh cherche le bleu profond. Oui. Et Gauguin lui dit non, c'est le vert, en fait, la couleur qu'il faut explorer. J'avais l'impression presque parfois d'être chez Rimbaud et chez les voyelles en couleur. Et vous entamez le dernier mouvement de votre texte par ces mots. Paul résistait entouré de fantasmagories, de vives hallucinations et d'étranges parfums ou émanations qui lui évoquaient différentes époques de son existence amoureuse. La préférée parmi toutes les apparitions bienvenues était sans aucun doute Théamana, qui est l'une de ses muses et modèles. Les apparitions, les fantômes, les fantasmagories. Fantasmagorie, c'est l'étymologie, enfin c'est le même mot que fantôme. En quoi fallait-il passer par les visions, par les hallucinations, pour représenter à la fois l'œuvre et la vie intérieure de Gauguin?
C'est un peintre de visions. C'est-à-dire Gauguin, c'est un peintre qui vit avec ses visions dès le début. Même quand il était son époque bretonne, son époque à Arles. Il y a deux tableaux, par exemple, dans l'exposition où on voit...
Dans l'exposition du Grand Palais.
Du Grand Palais, oui. On voit deux tableaux de l'époque avec Gauguin. Et il y a sa forme à lui, qui est une forme de vision, de folie et tout ça. Et puis il y a la forme de Van Gogh, qui était son maître aussi, comme Degas et comme Pissarro.
Oui, parce qu'il y avait un rapport entre Degas et Gauguin, il y a un rapport presque de maître à disciple.
Oui, et alors c'était un peintre de fantasmagorie, justement, de vision, d'hallucination même. Et c'est ça qui m'intéressait aussi. Il y a ce tableau merveilleux, l'esprit des morts veille,
exactement.
Où il se représente, il est dans les tableaux. Donc il se voit comme un esprit qui vient pour faire peur à cette petite fille qui est couchée, qui tremble parce qu'elle voit les esprits.
Alors parlons-en tout de suite d'ailleurs, parce qu'il est reproduit en fait ce tableau dans votre livre. C'est vrai que c'est cette fille en fait, cette très jeune femme ou adolescente, disons-le, voilà, elle a 13-14 ans, adolescente, qui est allongée, et il y a cette figure noire dans un coin de la pièce qui veille, mais c'est l'esprit des morts, donc c'est très inquiétant. Et j'aurais vous demandé, Zoé Valdès, vous venez de nous parler des mots, il y a des reproductions de tableaux de Gauguin que vous avez choisis pour encadrer justement votre texte, notamment Terre délicieuse, Vincent van Gogh peignant des tournesols, donc que des tableaux de Gauguin, l'autoportrait au chapeau, l'esprit des morts veille, un paysage, et puis cette jeune fille à l'éventail, qui est présente d'ailleurs aussi dans la fiction que vous développez, sous la forme d'un tatouage en fait. Et ce sont des tableaux qui n'interfèrent pas dans le texte, mais qui restent à son seuil. Et je voudrais qu'on en parle parce que Camille Laurent, ça fait presque la même chose. Comment vous les avez choisis? Quel rôle ont-ils finalement par rapport au texte?
Surtout la couleur, parce que je voulais justement que la couleur soit présente dans les textes. Quand je choisis les titres qui viennent de « Et l'or de leur corps », c'est-à-dire les côtés alchimistes, les côtés lumineux de sa peinture, mais aussi la terre, la couleur de la terre. Mmh. Et je voulais que ces tableaux, déjà la reproduction est magnifique, je voulais que la couleur de la terre soit justement dans ces choix d'œuvres.
Et la terre de leur corps, le titre d'ailleurs, un petit mot sur ce
titre. Ça vient de « Et l'or de leur corps », ce tableau magnifique qui était le premier tableau de Gauguin que j'ai vu dans ma vie.
Et vous remplacez l'or par la terre?
Par la terre, parce que la terre, c'est très important dans sa peinture. Même quand c'est une époque bretonne, on voit aussi la terre derrière, on voit la terre dans la peau de ces jeunes filles bretonnes qui sont en train de danser. C'est très important, la terre, dans sa peinture.
Et de la même manière, Camille Laurence, sur la couverture du livre, on voit cette petite danseuse de Degas de dos. Quand on retourne le livre, elle est de face. Et quand on ouvre le livre, elle est de profil sur la jaquette côté gauche. Pourquoi aussi avoir fait le choix, il y a votre texte, de quand même montrer cette danseuse sous toutes les coutures, comme si le lecteur était amené à faire le tour?
Ben c'est ça, et c'est une sculpture, donc on est supposé pouvoir tourner autour, et c'est ce que j'ai fait dans tout le livre. Mais aussi le fait qu'elle soit de dos sur la couverture, c'est parce que elle garde une part de mystère, et c'est comme si je la regardais s'en aller, je ne sais même pas où elle est morte, quand elle est morte, et donc il y a quelque chose qui reste inachevé aussi.
C'est très beau parce que je trouve que c'est aussi suivre sa trace, suivre derrière elle,
c'est ça.
La couverture est très belle.
Alors, Zoé Valdès, je voudrais citer un autre passage justement qui me plaît beaucoup, c'est cette petite chinoise qui vient nourrir en fait le peintre agonisant. La petite chinoise revint cet autre matin avec à nouveau un bol bouillant, cette fois de crème de poireau, envoyé également par son père, puisque son père tient une taverne. Elle plaça le récipient sur la table et se dirigea vers lui qui se trouvait affalé dans un fauteuil près de la fenêtre. Tout en soulevant sa blouse par derrière pour montrer sa peau, l'adolescente lui révéla « Regarde ce que l'on m'a fait à partir du dessin que tu as offert à papa. Ça te plaît ?» La jeune fille montrait un splendide tatouage sur son dos encore rougi, les traits reproduisant le visage de l'esquisse qu'avait faite le peintre pour le tableau « Jeune fille à l'éventail ». Dans le passé, Paul avait décidé de récompenser les faveurs du commerçant chinois, marchand de légumes et cuisinier, par ce croquis, un parmi d'autres. Et lui demande de lui dire comment on lui a fait ce tatouage. Il y a quelque chose de très fort, de très minotauresque aussi. Il a offert un dessin et le père imprime le dessin dans la chair de sa femme. C'est un texte qui est très physique. Et il y a une intuition dans ce texte qui me plaît beaucoup, c'est que l'autoportrait final de Gauguin lui aurait été dicté, non pas par son âme en délire, mais par son corps. Vous le dites, son physique réclamait cet autoportrait, celui de sa vieillesse. La création dictée par le corps, c'est ce que vous vouliez donner à lire au lecteur. D'où elle vient cette intuition?
C'est justement l'intuition de la chair. Je voulais ça, je voulais la chair, que la chair soit présente dans ce test. Et puis cette petite chinoise, c'est moi évidemment, je ne pouvais pas mettre une cubaine, mais il y avait une communauté chinoise importante à Ivaoa, et je décidais de mettre cette petite chinoise qui est moi, évidemment, qui est pure fiction dans ces tests. Et puis, il y a mon grand-père
aussi.
Donc,
vous avez tatoué sur le dos, Zoé Valdez, un portrait de...
J'imaginais.
Une jeune fille à l'éventail. Pourquoi c'est vous, cette petite chinoise-là et pas, vous disiez tout à l'heure, je suis Gauguin, je suis toutes les muses, les modèles, on est tout le monde quand on écrit.
Parce que
pourquoi?
Vous savez, quand on écrit, il y a d'abord les personnages principaux, dans ces cas Gauguin, qui s'empare de vous, qui vous prend, et puis ensuite il commence à vous laisser partir de vous, et il y a d'autres personnages qui rentrent en vous, et c'est comme ça que cette petite chinoise est apparue dans les tests. Moi, je ne pensais pas à cette petite chinoise. J'avais aucune idée qu'elle allait apparaître comme ça. Elle est apparue et évidemment, je sais que c'est moi. Je sais qu'elle m'a convoquée et elle était présente au moment où Gauguin est parti et m'a laissée seule.
Pour terminer, je voudrais vous interroger toutes les deux sur un autre moment en fait, de vos textes qui semble se répondre. Suite à la rencontre de Gauguin avec Van Gogh, et après avoir échangé sur leur mélancolie commune et au fond leur aspiration à la mort, vous concluez, Zoé Valdez, à propos de leur tableau. Monstre, c'est ce qu'étaient ces maudits tableaux. La mort les séduisait à travers des aberrations puissamment colorées. De même, Camille Laurence, à propos de cette petite danseuse que vous rapprochez des figures embaumées qui cherchaient à conserver l'image des morts, vous écrivez « C'est le génie de cette œuvre, sa puissance de douloureuse fascination. Elle se dresse morte, vivante, à la face du monde pour qu'on la voie. » À quoi, puisque vous savez, vous êtes plongé dans l'œuvre de ces artistes, à quoi, selon vous, est due cette monstruosité de l'œuvre d'art? Et est-ce que vous l'avez ressenti, vous, dans ces œuvres, à propos desquelles vous avez choisi d'écrire?
C'est difficile de répondre brièvement à une question comme celle-là. Monstrueux, ça veut dire aussi qu'il se montre. Hein. Donc, elle se montre et elle est unique et elle garde toujours une part d'inconnu.
Zoé Valdez.
Oui, je suis d'accord avec Camille. C'est ça. Il y a un moment où vous décrivez les danseuses et vous dites il y a leur corps, mais on ne voit pas tellement les visages. Oui. Justement, c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire la monstruosité de la démarche d'un peintre, de son œuvre, de la façon de jouer avec ça, avec la monstruosité et aussi la divinité de l'œuvre. C'est ça qui. On parle aussi de ça, nous deux, dans nos livres, de la divinité de ces filles qui deviennent à un moment un monstre, mais divin aussi.
Ça vous va, monstre divin, pour votre petite danseuse Camille Laurence?
Ah oui, c'est merveilleux.
On va se terminer là-dessus. Voilà, les monstres divins. Merci à toutes les deux d'avoir participé à cette émission sur les liens entre la littérature et les arts plastiques. On l'a vu ici, peinture, sculpture, littérature. Je rappelle le titre de vos livres, Zoé Valdez et La Terre de leur corps, c'est publié chez Cartel aux éditions de la RMN. Et Camille Laurence, la petite danseuse de 14 ans chez Stock. Merci à toutes les deux.
Merci beaucoup.
Le temps des écrivains, c'est Avril Ventura, avec la complicité de Marie Pernis, à la réalisation Anne-Laure Chanel, à la technique Éric Boisset. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pendant un an et réécouter cette émission de manière illimitée sur franceculture.fr, cette émission sur la littérature et l'art avec Camille Laurence et Zoé Valdez.